Bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Bienvenue à notre série d'été « Pourquoi croire? ». Pendant tout l'été, on répond à cette question. Il y a quelqu'un de Nouvelle Vie qui m'a écrit tout récemment, après avoir été en télétravail, envoyait et partageait le lien des réunions avec des collègues. Et lorsqu'il est retourné au bureau sur Montréal il y a quelques jours, il y a quelqu'un sur la pause du midi qui regardait les messages depuis quelques semaines et qui lui a dit « Explique-moi ça, là. Explique-moi pourquoi tu crois. » Et c'est le but de notre série cet été, vous équiper à répondre à la question pourquoi croire, mais aussi, c'est pour tous ceux qui suivent les messages en ce moment, pour les premières fois, les dizaines de milliers qui ont commencé ou qui ont recommencé, qui reviennent et qui se posent la question, toutes sortes de questions, pourquoi croire en 2020? Alors, la série entière est déjà là, on est au milieu de l'été, mais déjà, il y a plusieurs messages qui sont là, pourquoi croire que Dieu existe? Pourquoi croire que Dieu est à l'origine de la vie? On a vu ensemble, pourquoi croire que Jésus est le chemin? La semaine prochaine, pourquoi croire la Bible? Pourquoi croire la parole de Dieu? Pourquoi croire que Jésus est ressuscité? Parce que si vraiment il est mort et ressuscité, il n'y a aucun doute historiquement que de l'existence, que Jésus est venu sur terre, mais s'il est vraiment mort et ressuscité, ça change tout. Alors, pourquoi croire que Jésus est ressuscité? Je vais apporter un message dans les prochaines semaines. Pourquoi croire au miraculeux? Pourquoi croire au miracle en 2020? Et nous sommes dans la deuxième partie d'un message. La première partie s'intitulait « Pourquoi croire que Dieu peut nous aider à gérer et à guérir de nos conflits? » Et aujourd'hui, pourquoi croire à la guérison de nos blessures relationnelles? Pourquoi c'est un tel thème? Parce qu'il y avait une pandémie avant le coronavirus, avant la COVID, une pandémie qui affecte des millions de personnes pendant celle-ci, pendant la COVID, et qui sera là après aussi, le virus, la pandémie des blessures relationnelles. On en a tous, à un moment ou à un autre, été affectés. Alors, pourquoi croire que la Bible, il y a quelqu'un certainement qui regarde ça, dit, mais voyons donc, pourquoi croire que la Bible, Dieu, la religion, l'Église pourrait m'aider à guérir de mes blessures relationnelles? Pourquoi croire comme chrétien que à la guérison de nos blessures relationnelles? Parce que Dieu le Père est amour, fondamentalement, parce que Dieu le Père est amour. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, et le verset 5, à 9, notre espérance ne nous trompera pas, ne nous décevra pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions pécheurs, ennemis de Dieu, par son amour, il nous a réconciliés avec lui. L'amour de Dieu est l'antidote, c'est la thérapeutique, c'est le vaccin contre la pandémie des cœurs déchirés, des cœurs brisés. Et la parole, et Paul a dit il y a 2000 ans, ce que nous vivons encore aujourd'hui, c'est que l'amour de Dieu n'est pas seulement quelque chose d'éthérique ou de théorique. Lorsqu'elle est permise d'être répandue dans un cœur, lorsque tu lui ouvres ta vie, tu lui ouvres ton cœur, ton passé, ton présent, ton avenir, il vient, il prouve son amour envers nous. Il le répand dans notre cœur et fait de nous, met en nous une parole de réconciliation. Parce que Dieu le Père, pourquoi croire que Dieu, à la guérison de nos blessures, avec l'aide de Dieu, nos blessures relationnelles, parce que Dieu le Père est amour et parce que Dieu le Fils est venu pour guérir des cœurs brisés. Lorsque Jésus annonce son ministère sur cette terre dans l'Évangile de Luc, chapitre 4 et le verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé pour... » Il ne dit pas « Il m'a envoyé pour faire de vous des gens religieux, pour vous rassembler, vous séparer, pour vous isoler loin du monde. » Il n'a pas dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire de vous des gens qui jugent les autres le doigt pointé ou qui se croient supérieurs moralement ou pour manipuler qui que ce soit. » Non, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir. Il m'a envoyé pour guérir des cœurs brisé. Dieu, pourquoi croire à la guérison de nos blessures relationnelles? Parce que Dieu, le Père est amour et Dieu, le Fils, vient pour guérir des cœurs brisés. Dieu, le Père est amour, Dieu, le Fils, vient pour guérir des cœurs brisés et il le fait dans la vie de chacun qui s'ouvre à lui. Et parce que Dieu, le Saint-Esprit, est un consolateur. Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas un rituel. Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas pour te rendre bizarre. Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas quelque chose d'un événement d'une foi quelque part dans ta vie passée. Dieu, le Saint-Esprit, est un consolateur. Jésus a dit, il est venu, ce souffle, ce pneuma de Dieu, le Saint-Esprit, que le Père enverra. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 26 et 27, le Père l'enverra en mon nom, afin de, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas une paix comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne s'alarme pas, parce qu'à ceux qui le désirent, je vais envoyer, je vais offrir mon Saint-Esprit. Il y a une paix en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pour guérir. Il y a une guérison de nos blessures que ce monde ne peut pas vous procurer, que l'argent ne peut pas te procurer, ni l'argent, ni le succès, ni les réussites, ni le pouvoir, ni la célébrité, ni le politique, ni le religieux. Il y a une œuvre unique dans le cœur de l'être humain par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir espoir à la guérison de toutes nos blessures relationnelles, parce que Dieu le Père est amour, Dieu le Fils guérit les cœurs brisés, Dieu le Saint-Esprit est un consolateur, et parce que Dieu appelle son peuple, non seulement à la recevoir cette guérison, mais à la répandre. Deuxième Corinthiens, chapitre 1, quelques portions de deuxième Corinthiens, le premier chapitre. « Béni soit le Père de notre Seigneur, qui est le Père de toute consolation, dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, afin que nous soyons rendus capables de consoler ceux qui se trouvent dans quelque souffrance que ce soit. » Et cela et tout ça, Paul dit, tout cela nous vient de Dieu qui a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est la force d'attraction incomparable, inexplicable, inarrêtable du message de l'Évangile. C'est la raison, vous savez, c'est un peu hallucinant pour les gens de Nouvelle Vie. La semaine prochaine, ce serait notre 27e anniversaire, jour pour jour. On va le célébrer cet automne. On n'aurait jamais pensé il y a 27 ans qu'on se retrouverait comme ça, en ligne, au milieu d'une pandémie. Mais des quelques dizaines de personnes, ou plusieurs milliers, 5000 personnes dans toute la grande famille Nouvelle Vie, mais maintenant, plusieurs dizaines de milliers avec Nouvelle Vie chez nous. Quelle est la force d'attraction? C'est le fait. Il n'y a pas de vedette ici, il n'y a pas de gourou ici, il n'y a pas de système ici. Il y a seulement la réalité d'un Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui nous console une personne à la fois et qui met en nous le ministère de la réconciliation pour communiquer, répandre cette guérison. Mais je vous entends penser, oui, je vous entends penser là où vous êtes, alors que vous regardez ce message, là où vous êtes, Nouvelle Vie chez vous, il y a quelqu'un qui dit, pourquoi croire que Dieu, la foi en Christ ou la Bible, peut m'aider à guérir de mes blessures relationnelles, alors que je connais des chrétiens de longue date qui sont perpétuellement blessés, offensés et qui ne semblent jamais guérir? Pasteur Claude, pourquoi croire que Dieu peut m'aider à guérir de mes blessures relationnelles, à faire de moi quelqu'un qui est dans la paix, quand je regarde sur les médias sociaux des chrétiens comme jamais, sur n'importe quelle controverse, se déchirer, s'insulter, se mépriser? C'est pas très attirant. Pourquoi croire que Dieu pourrait... j'aime Dieu le Père, j'aime Dieu le Fils, j'aime Dieu le Saint-Esprit, mais moi, en ce moment, je vis un déchirement de cœur. J'ai vécu un divorce, une séparation, une trahison, une blessure. J'ai vécu quelque chose, un abus. J'ai vécu quelque chose de tellement... Et en ce moment, je souffre. Pourquoi croire que je peux m'en sortir? J'aimerais dire ceci. Jésus a dit, « Celui qui m'aime... » Il y a beaucoup de gens qui disent « aimer Dieu », mais celui qui m'aime, c'est celui qui suit, qui obéit, qui comprend, qui connaît et qui pratique mes commandements. Et la chose la plus extraordinaire, le cadeau le plus extraordinaire, c'est que Dieu ne dit pas seulement « je suis amour et je suis le Dieu de la réconciliation », il nous enseigne des principes de vie, ce qu'on a appelé ensemble les lois, les cinq lois pour notre guérison relationnelle. Il nous enseigne comment, et celui qui les, et celle qui la pratiquera, les pratiquera, les mettra en pratique, les vivra, apprendra à les connaître, les vivre, les incarner et les suivre, celui-là trouvera le chemin. Celle-là trouvera le chemin de la guérison relationnelle. Si vous avez manqué la première partie du message, soyez sûr d'aller la chercher. Elle est déjà en ligne. Allez voir ça parce qu'il y a 5 lois qu'on a vues ensemble. La loi de l'ignorance et de l'importance. On va les mettre au complet. La loi de l'ignorance et de l'importance. Les 5 lois pour notre guérison. La loi de l'intentionnalité à initier. La loi de l'inspiration pour de nouvelles impulsions. Ça, c'était le message de la semaine dernière. La loi de l'introspection et de l'intérêt versus l'indifférence et même l'inversement. Ça, c'est aujourd'hui, je vais vous l'expliquer dans un instant. Et la loi de l'impact illimité de nos paroles. 5 principes et dynamiques de vie pour guérir de nos blessures relationnelles. La semaine dernière, dernier message, nous avons vu ensemble la loi de l'ignorance et de l'importance. C'est important de savoir ce que la guérison des conflits ou régler ou gérer des conflits n'est pas. Et pourquoi c'est essentiel d'apprendre à gérer des conflits. Tu ne peux pas ne pas apprendre cela parce que ça va affecter chaque aspect de ta vie. On a vu aussi la loi de l'intentionnalité à initier la résolution de conflits. Vous, promptement, faites les premiers pas. Nous avons identifié, on a vu ensemble, découvert ensemble, comment la peur qui nous retient de faire les premiers pas. Il y a une peur qui nous retient de faire des pas de réconciliation, des pas vers la guérison, mais surtout on a vu ensemble comment la renverser. Et la troisième loi qu'on a vue, c'est la loi de l'inspiration pour de nouvelles impulsions. Nous avons découvert l'enseignement de la parole de Dieu, qu'il y a 2 souffles, 2 pneumas. Il y a 2 inspirations dans l'opération dans ce monde aujourd'hui. Un souffle d'accusation, un souffle de colère, un souffle de rancune qui cherche à diviser, à accuser, d'orgueil, de conflit, de peur. Mais il y a aussi ce que la Bible appelle le pneuma, le souffle, l'inspiration de la grâce. Il y a une grâce de Dieu, un souffle. Et on doit choisir quel souffle va nous animer à chaque jour. Et aujourd'hui, c'est la 4e loi pour laquelle nous croyons à la guérison, celle que la Bible appelle la loi de l'introspection. Jacques, chapitre 4, et les versets 1 à 3. D'où viennent les conflits, les luttes et les querelles entre vous, les blessures, les déchirements relationnels? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui font rage à l'intérieur de vous? Vous désirez ce que vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Vous avez des conflits, des déchirements, et même lorsque vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but seul de satisfaire votre ego, vos désirs et votre volonté. D'où viennent les conflits entre nous et notre réflexe, notre instinct, notre réaction humaine? D'où viennent les conflits? Notre réponse naturelle, c'est les conflits viennent des autres. C'est la faute à quelqu'un d'autre. Les conflits que je vis, les blessures relationnelles, c'est la faute à quelqu'un d'autre. C'est notre réflexe humain. C'est mes parents, c'est mon enfance, c'est mes parents, c'est mon époux, c'est mon épouse, c'est ma conjointe, mon conjoint, c'est mes enfants maintenant devenus ados et adultes, c'est ma famille, c'est mon frère, ma sœur, c'est le patron, c'est les collègues, c'est le gouvernement, c'est la droite, c'est la gauche. C'est Legault, c'est Trudeau, c'est Trump, c'est l'Église, c'est quelqu'un d'autre. Et les désirs, et Jacques dit, tu regardes partout ailleurs, mais d'où viennent les conflits? Ils viennent de bien plus près, ils viennent de l'intérieur de toi. Ils viennent de l'intérieur. Et ce n'est pas nouveau, cette dimension de projeter, cette dimension de « non, ce n'est pas moi, c'est la faute à quelqu'un d'autre, c'est la faute de l'autre ». Dans la description originelle, dans les premiers chapitres du premier livre de la Bible, dans la Genèse, lorsque Adam et Ève, lorsque l'homme est en rupture de relation avec Dieu, conflit de relation avec Dieu, désobéissance, entre immédiatement en conflit relationnel et immédiatement en blâme. Il va blâmer son épouse, mais blâme Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. Et elle va dire, non, c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a. Cette dynamique de blâme. Et il y a des conséquences à si cette dynamique demeure, si c'est la seule chose qui nous habite. Jacques dit, voici ce qui va t'arriver. Tu vas désirer, vous désirez à ce moment-là, mais vous ne posséderez pas. Il y a une guérison, il y a un épanouissement, il y a un bonheur relationnel, il y a une paix, il y a une intimité, il y a une capacité de restaurer des relations que tu n'auras jamais, tu vas la désirer, tu ne la posséderas jamais. Il dit, si tu ne réalises pas, si tu n'acceptes pas de commencer avec toi-même, vous allez être envieux et meurtrier. L'apôtre Jacques n'était pas en train d'adresser une congrégation d'assassins, de sicarios, c'était pas tous des tueurs à gages dans la salle. Dans l'église à laquelle il s'adresse. Il ne parle pas d'assassinat physique, d'homicide, Mais il dit, lorsque tu refuses de regarder à toi-même, c'est lorsque tu refuses cette introspection, lorsque tu continues seulement à te limiter à blâmer les autres, tu vas tuer des choses. Il y a des mariages qui sont tués, des amitiés qui sont tuées. Il y a des relations qui sont tuées. Il y a des familles qui sont, où la relation a été tuée, a été détruite. Il y a des ministères qui sont tués, il y a des potentiels, des carrières qui sont tués. Vous demandez et même lorsque tu demandes, tu ne reçois pas. Vous avez des conflits, des déchirements et même lorsque vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Même lorsque vous demandez, c'est dans un but de satisfaire ma volonté, mes désirs, mes besoins, mes déceptions, mes blessures, mes offenses, mes attentes, mes blâmes. Et la parole de Dieu dit, commence avec toi. Commence avec toi. Regarde à l'intérieur. Il y a seulement deux grandes causes de conflits relationnels. L'égoïsme et l'orgueil. Deux grandes causes de conflits dans toute relation humaine. L'égoïsme et l'orgueil. Proverbe 13, 10 le dit de cette façon. C'est seulement par orgueil qu'on provoque des conflits et des disputes. C'est le verset biblique à mémoriser cette semaine. Je vous invite à le mémoriser cette semaine, Proverbe 13, 10. Pas seulement les enfants qui mémorisent le verset biblique. Chacun d'entre nous, mémorisez ce verset cette semaine, il peut changer votre vie. Si tu le reconnais, c'est seulement par orgueil qu'on provoque des conflits et des disputes. Un espoir déçu rend le cœur malade. Un désir qui s'accomplit. Par contre, il devient un arbre de vie. La sagesse est avec ceux qui écoutent. L'espoir d'être entendu, compris de l'autre. L'espoir que les choses vont changer parce que l'autre va regarder à l'intérieur de lui-même et reconnaître cet espoir-là que les choses peuvent changer. Lorsqu'il est déçu, lorsqu'il est piétiné, un espoir déçu rend le cœur malade dans un couple, dans un mariage, dans une amitié, dans toute dynamique relationnelle. Mais malgré les pires conflits et blessures du passé, un désir qui s'accomplit devient un arbre de vie. Un cœur qui, avec repentance, dit « Je vais regarder à l'intérieur. J'ai un désir de changer qui est vrai, qui est authentique, qui est sincère. Je vais arrêter de regarder aux autres. Je vais regarder à moi-même. Qu'est-ce que moi, je peux changer? Je veux dire que tu peux amener des nouveaux fruits dans ton mariage, dans ton couple, dans ta famille, avec tes enfants, dans toutes tes relations. Ça ne veut pas dire... Regardez à soi, la loi de l'introspection ne veut pas dire que l'autre n'a pas de tort, que tu acceptes tout ce qu'il fait, que ce qu'il a fait était bien. Ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas de tort, ça veut simplement dire que je vais essayer de prendre ma part, je vais prendre ma portion, je vais regarder à l'intérieur. D'où viennent les luttes? Je vais commencer par regarder à l'intérieur de moi. Je le dirais à notre niveau personnel, mais c'est aussi important en cette année de tous les conflits. En cette année de tous les conflits en personne, dans notre société et aussi même en ligne sur Internet. Je voudrais dire au peuple chrétien, je peux être en désaccord avec quelqu'un sans chercher à le détruire. À détruire absolument la position qu'il a parce qu'on est en désaccord. Mon frère m'a écrit un mot cette semaine, il m'a dit, « Il y a une époque dans ma vie où j'étais prêt à perdre la raison pour avoir raison. » Est-ce que tu es prêt, toi, à perdre la raison pour avoir raison? La loi de l'introspection, c'est « sonde-moi, ô Dieu ». Dieu vient m'aider à connaître mon propre cœur. Écoutez-moi, c'est toujours tellement plus bénéfique, tellement plus gratifiant, tellement plus fructueux de résoudre un conflit que de dissoudre ou de détruire lentement une relation. Est-ce que vous êtes dans un conflit en ce moment? Dans un conflit avec quelqu'un de près ou un conflit qui dure depuis longtemps avec votre père, votre mère, votre belle-mère, êtes-vous en conflit avec votre épouse, avec vos enfants devenus adultes, avec quelqu'un au travail ou à l'église ou dans votre entourage, c'est seulement par orgueil qu'on provoque provoquer des conflits, qu'on va provoquer des disputes. Alors je vais vous donner aujourd'hui une recette miracle. Je vais vous donner une phrase. Je vais vous donner une phrase que si vous la prononcez, une phrase qui immanquablement va initier un chemin de guérison dans vos conflits. Je vous le garantis, c'est universel. Une phrase, êtes-vous prête? Une phrase garantie de désamorcer les pires bombes et de dénouer les pires impasses. Êtes-vous prêt? La voici. Lorsque vous êtes en conflit avec quelqu'un, en ce moment, c'est en train de brasser, le ton monte ou il y a un conflit qui est là, voici la phrase. Regardez la personne sincèrement et dites-lui, « Je m'excuse, je te demande pardon, je pensais seulement à moi. Je m'excuse. Je te demande pardon. Je pensais seulement à moi. Et lorsque, à tous les maris, lorsque votre épouse va revenir à ses sens après avoir perdu connaissance et tombé par terre de vous avoir entendu dire ça, et qu'elle se relève, dites-lui une deuxième fois. Je m'excuse. Je te demande pardon. Je pensais seulement à moi. C'est une phrase qui est tellement importante. Vous dites, pourquoi c'est tellement important que je reconnaisse moi, que je reconnaisse cette dynamique-là, cette dynamique d'introspection versus intérêt, indifférence ou inversement. Comprenez bien, il y a quelque chose qui se déchire, qui se perd. Il y a quelque chose qui meurt dans un cœur lorsque l'espoir qui est déçu rend le cœur malade. Lorsque quelqu'un en vient dans une relation à penser que l'autre n'a même pas assez d'intérêt pour m'écouter, même pas assez d'intérêt, qu'à chaque fois que je viens pour, c'est toujours un doigt d'accusation. Il y a quelque chose qui meurt à l'intérieur. Pourquoi dois-je absolument prendre la décision de dire sincèrement, je m'excuse, je te demande pardon? Je pensais seulement à moi. Pourquoi dois-je apprendre à pratiquer sincèrement cette loi spirituelle et relationnelle? Parce que j'ai des angles morts. J'ai des angles morts dans ma vie. Jésus les explique dans Matthieu chapitre 7, les versets 3 à 5. Pourquoi les angles morts? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Jésus, pas moi, mais Jésus le dit. Très direct, hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère, de ta sœur, de ton époux, de tes enfants, d'un ami. La paille et la poutre. Ôte premièrement la poutre dans ton œil et seulement alors tu verras comment ôter la paille. C'est une clé tellement importante au niveau relationnel. Tu ne peux absolument pas aider l'autre, contribuer à la guérison de la relation, contribuer à guérir un conflit si tu ne reconnais pas la paille, ta propre portion, ta propre responsabilité. Ce qui te semble si petit à toi, mais ce qu'on appellera en termes modernes l'angle mort. Vous avez déjà été sur une autoroute récemment, j'étais sur une autoroute et puis il y avait une minuscule petite voiture, je pense que c'était une Micra, minuscule petite voiture, et j'ai regardé ça dans l'arrière, j'ai dit ça va être terrible, il y avait un camion, un immense camion, et alors qu'il est en train de la dépasser, tu vois la Micra qui s'apprête à un cheveu d'un accident parce que tout le monde, tout le reste de l'autoroute le voyait, mais dans l'angle mort, cet endroit-là où tout le monde le voit, mais toi, tu ne le vois pas. Cette dynamique de s'arrêter et de dire, Seigneur, j'ai besoin aujourd'hui de reconnaître. J'ai besoin de reconnaître qu'il y a des angles morts. La nature humaine dit non. La nature humaine met la faute sur l'autre. La nature humaine concentre sur et exagère les fautes de l'autre. Mais la nature divine nous amène à une place où on dit, d'où viennent les conflits? Ils viennent de l'intérieur de moi. Aujourd'hui, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu. Pardon. Je te demande pardon. Je m'excuse. Je te demande pardon. Je pensais seulement à moi-même. Et un de nos pires angles morts, une des sphères de nos vies, le pire angle mort, c'est dans l'impact illimité. C'est la dernière loi. C'est le dernier principe qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Pourquoi croire que nous pouvons guérir de toutes nos blessures relationnelles, les cinq lois de notre guérison? Un de nos pires angles morts, que d'autres le voient, que tu ne vois pas de toi-même. C'est pour ça que tu as besoin d'aller à l'intérieur, de dire, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Et un de nos pires angles morts, c'est dans nos paroles, dans l'impact illimité et insoupçonné de nos paroles. On va retourner à l'épître de Jacques. Il faut vraiment que vous compreniez que l'épître de Jacques en entier a comme thème principal, le thème principal de l'épître de Jacques, c'est la capacité qu'on a de nous mentir à nous-mêmes. De nous décevoir nous-mêmes, de nous tromper nous-mêmes. Le thème majeur de cette lettre, la capacité que nous avons de nous mentir à nous-mêmes dans toutes sortes de niveaux d'aspects de nos vies, mais de rationaliser, de nous convaincre, de nous tromper nous-mêmes. Vous allez avoir des mots-clés, des phrases dans les cinq chapitres de Jacques. Ne vous imaginez pas, ne vous trompez pas, ne vous mentez pas par de faux raisonnements. Et la forme la plus répandue de déni spirituel, c'est le déni spirituel, selon Jacques, qui concerne nos paroles. Jacques l'a dit de cette façon, et c'est très direct. Jacques, chapitre 1, verset 6, c'est la cinquième et dernière loi par laquelle nous pouvons guérir de nos blessures relationnelles, la loi de l'impact illimité de nos paroles. Jacques 1, 26, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, sans avoir une maîtrise de ses paroles, mais en trompant son propre cœur, en se mentant à lui-même, la religion ou la spiritualité, la vie chrétienne, l'expérience avec Dieu de cet homme ou de cette femme est vaine. Très, très, très simplement, Jacques dit, si tu ne contrôles pas tes paroles, ta supposée spiritualité ne vaut rien. Si tu ne contrôles pas tes paroles, ta supposée spiritualité ne vaut rien. On pourrait arrêter là. On pourrait arrêter là et juste s'arrêter et dire, waouh, juste réfléchir à cela. Mais pressé par l'Esprit de Dieu, Jacques est conduit par l'Esprit à y ajouter 15 versets. On ne les traversera pas aujourd'hui, mais chapitre 3 de Jacques, verset 1 à 15, il frappe coup après coup pour essayer de nous faire comprendre. Est-ce que tu comprends que Dieu ne dissocie jamais ta marche avec lui de comment tu parles, que c'est une des formes les plus communes de se tromper soi-même. Que si vous avez quelques... Écoutez-moi un instant. Si en personne, avec vos amitiés, ou en ligne, ou sur une page Facebook, ou avec des relations que vous avez, il y a quelqu'un qui dit appartenir à Dieu, qui dit être chrétien, qui dit représenter Christ, mais qui a dans sa bouche des paroles hors de contrôle, des paroles qui abaissent, des paroles de mépris, des paroles de colère, des paroles de critique continuelle, il se trompe lui-même. Selon Jacques, la supposée spiritualité de cet homme ou de cette femme ne vaut rien. Il se trompe et il te trompe. Il y a une dynamique tellement importante. Les paroles, la loi de l'impact illimité de nos paroles dans chaque sphère de nos vies. Même pour nous, il y en a une en commençant chapitre 3, verset 1 à 15. Mais au verset 1, il y en a une qui m'interpelle moi comme prédicateur et comme communicateur, mais qui a une importance pour vous aussi, pour chaque personne, chaque chrétien, surtout chrétien de longue date. Pendant un instant, Jacques 3, 1, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. C'est un appel qui me met sur mes genoux depuis plus de 35 ans de ministère, 36 ans maintenant de ministère, que je sais que je vais non seulement être jugé pour ma vie, mais je vais être jugé pour mon message, pour comment je vais avoir communiqué. Mais ce n'est pas seulement... Alors, il y avait dans l'Église, dans le peuple de Dieu à lequel Jacques s'adressait il y a 2000 ans, il y avait ceux qui se hâtaient, se pressaient de « moi, je suis un enseignant, moi, je vais communiquer, moi, je vais vous dire, moi, je vais vous influencer, moi, je vais vous... » Et Jacques dit faites attention. C'est une grande responsabilité. Tu vas être jugé plus sévèrement. Tu vas répondre à Dieu pour l'influence que tu as. Jacques ne pouvait pas imaginer, au-delà d'un groupe maison, au-delà de mes amis, au-delà des gens que je côtoie, quelle représentation de Jésus que je leur donne, qu'un jour existeraient les médias sociaux. Alors, je fais un appel, un cri pastoral du cœur de berger, du cœur de Dieu, à tous les chrétiens, surtout chrétiens plus matures, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, dans chaque communication, vous aussi vous enseignez, vous aussi vous communiquez, vous aussi vous influencez. Mon Dieu, est-ce que mes paroles te représentent? Est-ce que mes paroles représentent ton cœur? Est-ce que mes paroles, mes tweets, ce que je partage, ce que je like, ce que je commande, est-ce que ça te glorifie? Est-ce que ça donne soif de toi? Est-ce que ça amène les gens à la paix, à l'unité, à la consolation? C'est tellement important, la loi de l'impact illimité de nos paroles. Et Jacques nous donne trois raisons. Dans Jacques chapitre 3, les versets 1 à 12, trois raisons pour lesquelles nos paroles sont si importantes. En fait, ont un impact illimité. Parce que nos paroles déterminent la direction, peuvent déterminer même la direction de ma vie. Elles peuvent détruire ce que j'ai de plus précieux et elles dévoilent et révèlent mon besoin réel. La première pensée, c'est que mes paroles sont tellement importantes dans toute la guérison relationnelle. Mes paroles déterminent directement la direction de ma vie. Jacques chapitre 3 et les versets 3 et 4. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent et nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Jacques utilise ici un mode d'enseignement qui était très fréquent dans tous les rabbins de l'époque, dans la façon d'enseigner utilisée par Jésus aussi, qui était de plus en plus la plus pure tradition rabbinique de l'époque. Il va donner une analogie avec un avertissement et avec une application et un appel. Analogie, application, avertissement, appel. Et la première, deux puissantes analogies pour parler de à quel point, pour enseigner, pour illustrer à quel point nos paroles vont donner une direction à notre vie. Littéralement, il va dire le mort, il va utiliser la première, le mort dans la bouche des chevaux. Il y a plusieurs années, j'étais au Kentucky et prêchant dans une église, et c'est là qu'il y a un des plus grands derbies de course de chevaux, le Kentucky Derby, et on avait été rencontrer un chrétien qui avait plusieurs chevaux, même des chevaux qui avaient participé à certains de ces grands prix où des dizaines de milliers vont, et j'avais eu le privilège de rencontrer, la première fois que je rencontrais en personne, un jockey qui avait déjà gagné, celui qui est sur le cheval, qui avait déjà gagné des championnats, et j'avais jamais vu un homme aussi petit. 43 kilos à peu près, et sur cette immense bête à côté de 900 kilos, 2000 livres, et le mort qui est dans la bouche, qui est si petit, et Jacques utilise l'analogie et dit, ce qui te semble petit, une phrase, une parole qui semble petit comme pour un cheval, donne littéralement la direction. Celui, le Proverbe 13, 3, le dit de cette façon, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ne se soucie pas de ses paroles court à sa perte. Comment tu parles? Si tu veux savoir où tu vas être dans les prochains 5 ans, regarde à comment tu parles aujourd'hui, comment tu parles aux gens autour de toi, comment tu parles, comment tu communiques autour de toi. La première analogie, c'est un mort dans la bouche d'un cheval. Littéralement, mes paroles, qui semblent si petites, semblent des simples phrases, simples paroles pour avoir un impact, lourdement affecter la direction de ma vie. La deuxième analogie, c'est un si petit gouvernail qui dirige le navire entier. Imaginez ces immenses vaisseaux, immenses navires dans la tempête. Imaginez les navires modernes avec toutes ces armes, ces tonnes et ces tonnes d'acier dans une terrible tempête. Et le capitaine même ne voit rien. Et c'est le gouvernail qui maintient la direction dans la tempête. Il y a plusieurs années, il y a un capitaine italien, Francesco Scettimo, qui a eu 16 ans de prison pour avoir été négligence criminelle en tant que capitaine du Costa Concordia. 32 morts, 16 ans de prison, et la manchette du journal disait une simple erreur de gouvernail. Il était négligent, il avait juste quelques degrés, il s'est fracassé sur des rochers, il s'est sauvé par la suite, et on l'a appelé l'homme le plus haï d'Italie à ce moment-là. Mais l'image que Jacques donne il y a 2000 ans, c'est que les choses qui te sont, les simples paroles qui semblent si petites à nos yeux sans discernement, gouvernent de grandes choses, vont littéralement avoir un effet sur la direction de ma vie. Littéralement, mes paroles... tellement important, détermine la direction de ma vie, et mes paroles peuvent même détruire, pas seulement l'avenir, mais détruire ce que j'ai de plus précieux en ce moment même. Voici comment Jacques chapitre 3, versets 5 et 6. « De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses, mais voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. » L'image est tellement puissante. Le mot, c'est le monde de l'iniquité. C'est le cosmos dans le grec original. Un univers de adikia, iniquité de adikos. Un univers, il y a dans nos bouches, dans nos communications, dans nos paroles, un univers de méchanceté, d'injustice, de trahison, d'offense, de souffrance. Littéralement, comme les feux de forêt récemment du Saguenay, des milliers d'acres détruits. Et on l'a ramené à une seule flamme, un seul petit feu de camp. Je lisais sur ce sujet, puis une simple étincelle. En Californie, en 2018, les Mendocino, la forêt de Mendocino, là, on parle de 1,5 million d'acres, des milliers de maisons, des gens qui ont perdu la vie, et ça a commencé avec une étincelle. Ils l'ont retracé à une personne avec un feu de camp qui croit avoir éteint. Il reste juste une étincelle. Et Jacques essaie de nous communiquer que les conditions pour l'étincelle qui devient un feu de forêt qui embrase tout, une étincelle dans une zone particulièrement desséchée où il n'y avait pas eu de pluie depuis longtemps. Il est possible dans ta marche chrétienne et la mienne de traverser des saisons où mon cœur est devenu sec et où la pluie de la présence de Dieu, de sa parole, il y a longtemps que je n'ai pas été abreuvé. Je ne suis pas laissé abreuver par la pluie de Dieu. Et il y a ces paroles qui semblent petites, mais qui peuvent donner une direction à ma vie, à mon mariage, à mes relations. Ces paroles qui peuvent détruire même ce que j'ai de plus précieux Je dis à quelqu'un, tu peux détruire des relations les plus précieuses de ta vie en ce moment si tu ne reprends pas la maîtrise de tes paroles. C'est un univers de méchanceté, nous dit le texte. Les péchés de la bouche, les péchés de la langue, de la parole. Une courte liste. Critiquer, diminuer, mépriser, accuser, mentir, menacer, intimider, ridiculiser, diffamer, blasphémer, des paroles vulgaires, des paroles grossières, des paroles caricaturales, des paroles qui diminuent, des paroles qui flattent afin d'obtenir, des paroles hypocrites, des paroles qui attisent les feux, qui divisent, qui dénigrent, des paroles qui condamnent, qui jugent, qui causent des divisions, qui met un mur en toi, l'autre personne, un ravin en toi, des paroles de vie, des paroles de mort. Le Proverbe 18, 21 dit ceci, « Vous aurez à vivre avec les conséquences de toutes vos paroles, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les paroles de querelle sont comme les verrous d'un palais. C'est du fruit de sa bouche que l'homme détermine ce qu'il pourra acquérir et ce qu'il pourra garder. » J'ai été frappé par la mort, la vie au pouvoir des paroles et les paroles qui sont comme les verrous d'un palais. Les paroles, selon Jacques, sont tellement importantes parce qu'elles peuvent littéralement déterminer la direction de ma vie, détruire ce que j'ai de plus précieux. Je termine avec ceci. Parce qu'en fait, mes paroles dévoilent et révèle mon besoin réel. Jacques, chapitre 3, les versets 8 à 12. « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. » Je vais terminer en vous ouvrant mon cœur un instant. Jacques dit, la langue, nos paroles, aucun homme ne peut par lui-même la dompter. Aucun d'entre nous, par nos propres forces, de notre volonté, de nos bonnes résolutions, ne peuvent la maîtriser. C'est un mal qu'on ne peut réprimer par nos propres forces. Vous êtes-vous déjà demandé, comment est-ce que c'est possible? Comment, à propos de vous-même, moi, je juge personne d'autre, là, je parle de moi. Comment est-ce que c'est possible? Avez-vous déjà eu ces moments où vous dites à Dieu, comment est-ce que c'est possible que je peux, moi, là, que ma bouche, je peux avoir la capacité de te bénir, toi, de te célébrer, et aussi de bénir, d'encourager, d'édifier, de mobiliser quelqu'un, de l'élever, de l'encourager, de lui donner de l'espoir, de lui donner des paroles de pardon et de vie, mais par la même bouche, être capable de donner des paroles qui font du mal aux gens que j'aime le plus. Des paroles qui sortent, qui échappent. Avez-vous déjà dit, comment j'ai pu moi dire ça? Avez-vous déjà eu la pensée, comment est-ce que je peux dire une chose pareille? Avez-vous déjà pensé, après avoir dit des choses que vous êtes peut-être trop orgueilleux pour reconnaître, mais que vraiment c'était mal, avez-vous déjà eu la pensée, c'est pas moi ça, ça c'est pas moi? Et Jacques dit, oui c'est toi. Il faut que tu regardes à la source. Et Jésus l'appuie. Jésus souligne la même pensée lorsqu'il dit « c'est de l'abondance du cœur ». C'est le prochain verset. Quand on connaît un arbre à ses fruits, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. En fait, mon plus gros problème n'est pas un problème de communication, c'est un problème de cœur. Je dois faire face à moi-même et dire « oui, c'est moi ça ». C'est de l'intérieur qui a besoin d'être transformé, qui a besoin d'être renouvelé. Cette réalisation me fait tomber sur mes genoux et dire « Seigneur, viens renouveler mon cœur. J'ai besoin. L'homme, par moi-même, je ne peux pas dompter ce qui sort de ma bouche. » C'est une chose, et ça nous arrive à tous, d'avoir des moments où on dit « mes paroles ont dépassé ma pensée. » D'accord. Mais Jésus dit plus profondément, Jacques dit, c'est une affaire de source. C'est de ton cœur que ça vient. Et tant que tu ne le reconnaîtras pas, tant que tu n'arrives pas au moment où tu reconnais et je me repens et je crie à Dieu, viens renouveler mon cœur. Mais si tu le fais, j'ai cette bonne nouvelle pour toi. Dans Ézéchiel, chapitre 18, versets 31 et 32, dernier verset. Rejetez loin de vous toutes les fautes par lesquelles vous avez péché ou vous avez manqué la cible. Je n'ai pas la force, Seigneur, de rejeter. J'ai cette bouche-là qui est capable de te bénir, de te célébrer, d'encourager, d'aider tellement de gens. Cette bouche-là est aussi capable du pire. Seigneur, elle donne direction à ma vie. Elle peut menacer de détruire ce que j'ai même en ce moment. Mais elle dévoile en fait mon besoin réel. Et mon besoin réel, j'ai besoin d'un cœur nouveau. Recevez un cœur nouveau et un esprit nouveau. Tournez vos cœurs vers moi et vous trouverez la vie. Je vais t'encourager aujourd'hui. Recevoir un cœur nouveau, ce n'est pas seulement à la nouvelle naissance, seulement au salut ou un événement d'une foi. C'est une attitude d'humilité qui vient et qui dit, nous allons terminer ensemble avec un moment de prière qui, j'espère, va être significatif pour toi. Qu'aujourd'hui, je veux que tu saches que Dieu est là. Dieu est maintenant avec l'imperfection de ce message, l'imperfection du communicateur. Le message et l'Esprit de Dieu, lui, est à l'œuvre avec toi. Es-tu prêt à prier avec moi aujourd'hui et dire, Seigneur, aujourd'hui, mon Dieu peut être un grand moment dans ma vie. Aujourd'hui, je peux choisir quel souffle va m'animer. Quel souffle va animer ma vie. Quelle inspiration va diriger ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je viens avec honnêteté et je rends les armes. J'arrête de dire c'est elle, c'est lui, c'est l'autre. D'où viennent ces conflits? Les autres peuvent avoir leur tort, leur faute, mais il y a quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Sonde-moi, ô Dieu. Et de l'abondance de mon cœur, je viens aujourd'hui et je réalise, je viens avec humilité, je viens avec tremblement devant toi et je te dis pardon. Et conduis-moi, donne-moi le courage d'aller dire à quelqu'un pardon. Je te demande pardon, je m'excuse, je te demande pardon. Je pensais seulement à moi. Et Seigneur, viens sonder mon cœur et de l'abondance de mon cœur, ma source a été polluée. J'ai besoin que tu viennes me donner ce cœur nouveau et que de l'abondance à tous les jours, pas une fois, mais à chaque jour je viens et je te demande, Saint-Esprit, viens me donner ce cœur nouveau qui va, de l'abondance de ce cœur nouveau, des paroles nouvelles et que la mort et la vie vont redonner une nouvelle direction à ma vie. Non seulement une nouvelle direction, mais viens, Seigneur, je vais protéger, je ne détruirai pas par mes paroles ce que tu m'as donné et surtout ce que tu m'as préparé. Je vais donner la vie. Je vais, avec ce cœur nouveau, à chaque jour, de l'abondance du cœur nouveau, tu vas me donner un langage nouveau, une communication nouvelle, des paroles nouvelles, mon Dieu, un esprit nouveau. Je reconnais mon besoin réel devant toi et jamais tu ne refuses celui ou celle qui vient à toi. Seigneur Dieu, viens guérir nos cœurs aujourd'hui, de l'abondance jour après jour de nos cœurs guéris. Fais de nous des personnes qui vont procurer la paix et guérir nous-mêmes. Et nous qui avons été consolés par le Dieu de toute consolation, par ta grâce, serons rendus capables d'apporter consolation à ceux qui en ont besoin. Dans le nom de Jésus, amen et amen. J'espère que ce message a été une bénédiction pour vous cette semaine. Demandez-lui, viens renouveler mon cœur, viens toucher ma bouche. Il va répondre au cri de votre cœur. Joignez-vous maintenant à l'équipe d'adoration de Nouvelle Vie alors que nous chantons Jésus-Christ, mon rocher et mon refuge. Bonne semaine!